nombre. C'est quel est le nombre?
C'est cadeau pour le début, tous les chants.
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après, le numéro 70 déjà.
Oh là là, déjà.
Et comme toutes les semaines, je suis accompagné de ma meilleure binôme. Je vais bien entendu parler de Louise Petrouchka.
Bonjour, comment ça va?
Ça
la
va
France.
Très bien. Et toi?
Ça va super.
Bah ouais.
Pleine
ça va
forme.
Super. On enregistre pour tout à fait honnête avec vous dans des conditions où il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Pour un mois de septembre, alors qu'on a passé un mois d'août parisien des plus douteux.
Oui.
Mais écoute, voilà, on fait avec. Il fait
c'est
chaud, ça reflète aussi peut-être un petit peu, moi en tout cas, moi ce que je ramène dans mes playlists. Donc, on est un peu cohérent.
Moi, pas forcément, je ne vais pas
forcément.
Vous mentir.
Pas forcément. Eh bien, écoute, on a hâte déjà de vous parler de ces quatre nouveaux artistes
oui.
qu'on ramène, comme toutes les deux semaines désormais. Avant de commencer tout de suite et de parler de musique, je vais prendre un petit temps pour les recommandations. Vous savez que les 4 morceaux que vous allez écouter aujourd'hui, vous pourrez les retrouver dans la playlist du son d'après, Deezer, YouTube, Apple Music, Spotify. Vous pouvez toujours écouter d'ailleurs la playlist de l'été qu'on a fait. Elle est là, elle est disponible. Elle va peut-être même être un petit peu étendue avec les quelque chose qu'on va vous ramener là. En tout cas, moi, je voulais pas trop spoiler. Tu
ah
vois,
bon avant. Ok. On en a pas parlé, mais
on
d'accord.
en a pas parlé, mais moi, je vais peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, c'est
okay.
dit comme ça. On va vous parler, évidemment, d'artistes dont l'orthographe est peut-être pas forcément évidente à l'écoute. Donc, vous pouvez retrouver tout ça, les noms d'albums, les noms de producteurs, dans les notes du podcast. C'est tout bien rangé, comme d'habitude. On vous conseille de nous écouter sur les applications de podcast, comme Apple Podcast, Castbox, Postcad, Podcast...
Décidément.
Ouais, lui, j'y arrive jamais.
Non, c'est
podcast
fou, hein.
Addict. Voilà, vous vous abonnez et comme ça, toutes les deux semaines, vous avez une notification pour vous, qui vous prévient en fait, de la sortie d'un nouvel
tout
épisode.
Tout à fait.
Et puis, si ça vous plaît, ce qu'on fait semaine après semaine désormais, vous pouvez nous mettre, comme d'habitude, des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify. Et puis, last but not least, suivez-nous sur Instagram, Twitter, désormais X et TikTok. Ok, tout est dit, on peut commencer à parler de musique.
Oui,
c'est toi qui commence.
C'est moi qui commence et bah, vous le savez, on vous fait un peu découvrir nos découvertes de l'été. Donc moi, parmi mes écoutes de l'été, il y a un album qui est très très souvent revenu et c'est celui d'une jeune anglaise qui a la vingtaine. Elle s'appelle Olivia Dean. Est-ce que déjà ce nom te parle, Clément ?
Non, dit comme ça, non.
Non, ok. Alors je me suis dit que tu l'aurais peut-être entendu en featuring sur le dernier album de Loyal Carner, Hugo, sur le titre Homertown.
Je l'ai forcément du
voilà.
coup entendu
du
parce
coup,
que c'est un album que j'ai pas mal écouté.
Voilà,
mais
je
j'avais pas retenu son nom, je l'ai jamais.
Et donc, elle a seulement 24 ou 25 ans, je ne sais pas exactement. Et pourtant, Olivia Dean a déjà une belle carrière. Outre une collaboration avec Loyal Carner, elle a aussi bossé avec Leon Bridges ou Redimental. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un groupe anglais d'électro dance qui avait fait une petite percée début des années 2010. Là.
Okay.
Et continue leur vie tranquillement. Mmh. Et du coup, elle avait bossé avec eux sur un de leurs albums. Personnellement, moi, je la découvre il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, suite à une recommandation YouTube. Comme la plateforme a compris que j'aimais bien tout ce qui est live et DJ set, elle m'en propose de temps en temps, et j'étais tombée sur un de ses lives, qui s'appelle Live at the Jazz Café, et j'ai souvenir d'avoir passé un excellent moment. Et après ça, d'avoir écouté son dernier EP de l'époque, qui s'appelle Growth. Et j'y étais revenue plusieurs fois, mais il me manquait un truc, il me manquait l'étincelle, la pureté du live sur ce disque. Et en juin dernier, Olivia Dean sort son premier album, après 4 EP. Son premier album s'appelle Messi, et je retente ma chance. Cette fois, gros coup de cœur, j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter pendant les derniers mois. C'est assez R&B, mais il y a une touche de jazz et une touche de pop, qui peut me rappeler d'ailleurs par certains moments les débuts de Adele ou de Duffy, pour les personnes de mon âge, voilà, qui auront la ref. Et il y a beaucoup de morceaux, plein d'âme dans ce disque, et je vous propose qu'on écoute un extrait du titre No Man pour se faire une idée. Every time I think we're somewhere close to conversation, it's the same. You'd rather be alone and not there, and let me love a stranger with your name. Why can't you be better for me? How can I be seen? All I see is nothing, no hand. No man for me singing, nothing, no hands, no. Dean avec le titre No Man. Qui est surpris que j'aime cette chanson et cet artiste ? Absolument personne.
Non, c'est vrai, pas beaucoup. Non. Pas moi, en tout cas.
Est-ce que t'as bien aimé, Clément ?
Écoute, ouais, moi j'ai passé un très bon moment. Je comprends tout à fait le parallèle que tu fais avec Adèle et Duffy. Mm-hmm. Effectivement, moi j'aime bien et sacrée voix. Mais je crois que d'ailleurs la partie que je préfère du morceau, c'est celle un petit peu qui, je trouve, s'en éloigne le plus.
Oui.
C'est celle, je sais pas, que je qualifierais comme une sorte de pont là, mm-hmm. de pont qui arrive aux deux tiers du morceau. Un peu plus légère, tu sais, dans, ouais. je trouve, dans les sonorités. Et j'aime, bah, ça, du coup, tout d'un coup, ça me surprend un tout petit peu plus. Et mon attention se porte particulièrement là-dessus.
Voilà, là-dessus.
Okay. Mais ça donne envie d'aller écouter le reste, effectivement. Parce que
je vais vous donner encore plus envie d'aller écouter le reste, mon cher. Car, bon, déjà, je crois qu'on peut se mettre d'accord tout de suite sur le fait que cette voix est tout à fait envoûtante.
Tout à fait.
Et qu'elle chante très bien. Mm-hmm. Bon, ok, c'est un fait. Il y a plein de gens qui chantent très bien, c'est super. Mais si j'ai choisi ce morceau, c'est notamment parce que je trouve les arrangements particulièrement bien choisis. Il y a plein de tout petits trucs qui me font plaisir et qui font que je trouve ce morceau ressort particulièrement dans l'album. Il y a cette toute petite boucle percussive qui s'excuse presque d'être là, tu sais, genre qui est là au tout début, puis qu'on n'entend presque plus avec les cordes, etc., qui se rajoutent. Mm-hmm. Il y a notamment ces cordes, voilà, qui, je trouve, élèvent le morceau petit à petit. Ce clavier qui sonne à moitié désaccordé, mais qui sonne quand même bien et qui va très bien avec, je trouve, la vibe que renvoie ce titre. Il y a une petite guitare électrique qui traîne en fond de temps en temps, etc. Bref, en fait, plus on se concentre sur l'écoute, plus on découvre que, bah voilà, il y a plein de
ouais, c'est
petits
très,
bouts.
C'est subtilement agencé, quoi.
C'est subtilement agencé, exactement. Et moi, c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans ce titre. Et je trouve que plus on écoute le morceau et plus vraiment, voilà, les subtilités se révèlent.
Tu comprends l'ampleur, ouais, du travail.
Ouais, exactement. Et j'aime beaucoup le fait que le titre s'ouvre en grand au fur et à mesure, quoi. La prod, j'ai l'impression qu'elle raconte l'histoire en même temps que les paroles. Mmh. Et que, du coup, ouais, ça donne de la consistance. Et j'aime beaucoup. Alors, je vais déjà vous dire, pour prolonger l'écoute, parce qu'en fait, je vais quand même deux paragraphes sur l'album, donc, mais c'est pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller écouter l'album, voilà. Ouais. Mais je voudrais vous en parler un peu plus longuement, parce que j'ai beaucoup aimé ce que le titre en raconte déjà. C'est un album, donc l'album s'appelle Messi, désordonné, et c'est dans le sens où Olivia Dean, elle a voulu aller expérimenter un peu avec sa musique, ne pas se limiter à un genre particulier, etc. Alors, voilà, le tout est quand même cohérent, hein. On passe pas de la drum and bass à la balade folk, c'est pas non plus un grand écart, mais on sent son amour pour différents genres, un peu transpirer chaque morceau. Alors forcément, le jazz en premier lieu, avec l'interlude notamment Getting There, ou encore la présence de la contrebasse, qui est un de mes instruments préférés, je le savais pas, mais maintenant je le sais, c'est bon, j'ai...
C'est révélé.
Ouais, voilà, sur le morceau Danger, que je trouve très cool. Il y a aussi un peu de bossa nova sur le morceau éponyme, Messi. Et puis, il y a une petite balade au piano, toute mignonne. Mais en même temps, le titre, c'est Everybody's Crazy. Donc, ça fait un peu une balance. Et dans certains titres, je disais tout à l'heure, il y a des réminiscences de Duffy dans le côté un peu easy listening. Et c'est pas dit péjorativement, c'est juste assez agréable d'avoir ce côté un peu plus pop, notamment sur le single Dive, que je vous conseille d'aller écouter. Mais s'il y a un seul morceau que je devais recommander de cet album qu'il faut aller écouter, c'est celui qui l'ouvre. Le titre s'appelle UFO. Et il y a un côté un peu folk, avec pas mal de guitare. Et aussi, elle utilise un vocodeur, ce qui n'est pas trop habituel sur l'album. C'est le seul moment, j'ai l'impression, où elle le fait.
Ouais.
Et c'est assez bien utilisé. Et ça me rappelle un peu Comment elle s'appelle ? Imogen Heap.
Ah oui, carrément, je vois.
Donc c'est un peu un jeu comme ça. Alors, c'est, elle fait pas des trucs aussi, j'allais dire Shaper. Je sais pas si c'est vraiment Shaper le terme pour Imogen Heap, mais c'est un peu moins accessible, je pense.
Oui, oui, c'est plus expérimental.
Voilà,
oui, un
plus
petit
expérimental.
Peu dans sa musique, ouais,
tout
je suis
à
d'accord.
Fait. Voilà. Donc si vous deviez n'écouter qu'un morceau, c'est UFO, c'est le titre d'ouverture. Après, vous allez vous laisser embarquer dans cet album, okay. Et ça sera très bien. Mm-hmm. Dans les autres recommandations, il y a son live, le live at Jazz Café, qui est sorti l'année dernière, qui compte plus de 4 millions de vues. Donc je pense que YouTube l'a recommandé à beaucoup de gens. Et bah, en vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir les chansons qu'elle chante dans un setup live avec des musiciens derrière elle. Et ça change vraiment, je trouve, la perspective. Alors vous pourrez aller écouter l'EP Growth et comparer un peu les morceaux en live et sur l'album. Je trouve que vraiment en live, ça lui donne encore plus de consistance. En plus, je trouve qu'elle est assez charismatique et que elle a l'air assez proche du public. En tout cas, elle s'excuse pas d'être là. Elle discute un peu avec les gens et tout. Et c'est assez,
elle est à l'aise, quoi.
Voilà, c'est assez chouette. Et une dernière recommandation, c'est sa reprise du titre Millionaire de Kelis et André 3000, je ne sais pas comment on dit. C'est une reprise qui est aussi dispo sur sa chaîne YouTube, qui est en live, et il y a une trop belle énergie. Elle est accompagnée par 3-4 musiciens, des choristes et des cuivres. Et franchement, en bonus, le public qui chante les lyrics par cœur et qui est trop content d'entendre cette reprise. Et je trouve que, bah, encore une fois, tu vois, genre, elle a un côté hyper charismatique. Ouais. Et je trouve ça vraiment chouette, j'aime bien ce genre de moment. Donc voilà, je vous conseille, c'est sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et voilà, c'était Olivia Dean.
Ok, on va aller diguer tout ça.
N'hésitez surtout pas, je vous mets tout dans les notes du podcast. Et on peut passer au son d'après.
Eh bien moi, de mon côté, je vais commencer par vous parler aujourd'hui de Peso Pluma. Hassan Emilio Cabandelaira, de son vrai nom. Il est âgé de 24 ans et c'est une superstar dans son Mexique natal, mais pas que, puisque lui et sa musique sont en train de cartonner à une échelle mondiale depuis le début de l'année. C'est l'une des grosses hypes de la musique hispanophone et latino, et je l'ai découvert bien évidemment grâce à Jetlag.
Jetlag,
oui, c'était très mal lancé d'ailleurs, à Jetlag, car depuis le passage de Robin dans notre émission, ils sont devenus ma référence pour suivre l'actualité de cette musique. Alors je suis beaucoup moins à jour que toi, bien évidemment, mais j'essaye, et quand j'ai entendu parler du succès retentissant de Peso Pluma, j'ai tout de suite eu envie de comprendre le phénomène.
Oui, alors faut expliquer le phénomène, puisque en soi tu me dis c'est un artiste mexicain et c'est hispanophone, tu peux penser tout de suite que c'est du reggaeton.
Pas du tout.
Mais que
c'est justement la suite de mon exposé.
Pardon, excusez-moi.
Quand je parle de phénomène, c'est bien le cas puisqu'il vient de battre, il y a quelques semaines, le record de Bad Bunny en plaçant 25 de ses morceaux dans le Hot Latin Song du magazine Billboard.
Eh ben écoutez,
pas
monsieur.
Mal quand même. Peso Pluma, il fait partie d'une scène qu'on appelle Regional Mexicana,
ouais,
qui est l'appellation parapluie qui regroupe plusieurs genres musicaux très écoutés au nord du Mexique et à la frontière avec les USA. Et Peso Pluma, il fait plus précisément des corridos tumbados ou corridos urbanos, qui est en fait la musique folk et traditionnelle locale, ce qu'ils appellent en fait des ballades du peuple aux influences urbaines. À la base, Peso Pluma, il veut devenir rappeur. Il a un peu une fascination pour les USA et tout le lifestyle des rappeurs qui s'en dégagent.
Oui.
Mais très vite, il se dit qu'avec sa voix nasillarde et grave, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est pas l'idéal et il se tourne vers la musique plus proche de ses racines. Il sort de la musique du coup depuis 2020. D'abord deux albums de chansons live qu'il a enregistrés à ses débuts, puis ensuite deux albums studio qui connaissent un succès, on va dire, mitigé à leur sortie. Et c'est début 2022 que le succès arrive. Il sort le morceau El Belicón en featuring avec Raúl Vega. Et le morceau prend très rapidement sur TikTok. À partir de là, il est identifié un peu plus chaque jour qui passe. Il est le premier artiste mexicain à passer chez Jimmy Fallon, par exemple.
Oh.
Et il a eu récemment sa session Bizarrap. Bref, il est devenu en quelques mois un poids lourd de la musique hispanophone et latino. Et je vous propose qu'on écoute un peu de musique,
voir ce que ça donne
en son, avec ce qui est actuellement mon morceau préféré de son dernier album, Genesis, sorti en juin dernier. Ça s'appelle Tulum, en featuring avec Grupo Frontera.
Tu eres un 10, pero sigues con ese tipo que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum. pero sé que tu cora no te hace turum turum. Bebé, estabas perdiendo el tiempo, qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida.
Eso es truco. Rompe.
¡Chau! La doble P. Ya.
C'était Peso Pluma avec le morceau Tulum en featuring avec le Grupo Frontera. Et alors, bon, je précise tout de suite pour ceux qui se posent la question. Donc, coup, Peso Pluma, c'est le chanteur à la voix vraiment que vous avez entendu la plus nasillarde.
Ah ouais, hein. Nasillarde.
On peut dire ça, c'est vraiment un côté un peu canard, personnage de cartoon. Hein. L'autre, c'est le chanteur de Grupo Frontera, qui est un groupe texan, qui font aussi des chansons latines, pop et norterno, qui est un peu un autre sous-genre du régional mexicain. Et on les a vus récemment, par exemple, fitter avec Bad Bunny.
Voilà. Por ciento.
Comment tu as trouvé ? Nous, on en a un petit peu parlé en antenne, mais Louis, j'ai envie de tourner vers toi. Qu'est-ce que tu en penses ?
En fait, on en a déjà parlé longuement, puisque moi, c'était au début, quand c'est arrivé... donc moi, c'est pareil, hein, c'est par Jetlag que je découvre Peso Pluma. Je capte que... En fait, je crois que j'ai découvert à la base Grupo Frontera, parce qu'ils ont fait le feat avec Bad Bunny. D'accord. Moi, je connaissais pas du tout la musique mexicaine, et j'ai fait « What the fuck is that ?» Et au début, j'étais en mode « Mais qu'est-ce ? Mais je comprends pas, en fait, la hype, tu vois, genre... » Et puis, bah, tu sais, le temps fait son affaire, on écoute les morceaux, on les réécoute, et j'avoue que, bah, typiquement, en plus, Tulum, c'est vraiment un de mes prefs.
Ouais, il est vraiment très efficace.
Et ouais, il reste dans la tête, c'est vraiment genre ingérable quoi. C'est qu'une fois que tu l'as, après t'es en mode. Et t'es tout seul en train de chanter. Tu l'as, bon bah alors je vais l'écouter pour l'enlever de ma tête. Puis en fait, ça ne l'enlève jamais donc.
Ouais,
voilà.
ça reste, tu la réécoutes. Ouais. Mais moi, je suis un peu comme toi, moi je suis un peu fasciné parce que, bah vous venez de l'entendre, ça sonne comme de la musique de mariachi en fait. Vraiment.
Oui, alors, je sais pas, moi j'ai...
Peso Pluma, de manière générale, je trouve que ça sonne comme de la musique de mariachi. Là, il y a...
Parce que j'ai même pas les rêves des mariachi, en fait, je crois.
Bah, alors moi, bon, quand je dis ça, c'est les rêves, tu vois, même certainement peut-être un peu cliché, mais tu sais, c'est le chapeau mexicain, c'est la guitare, c'est ce que tu peux voir dans...
Oui, mais en fait, qu'est-ce que t'as comme exemple d'artistes qui font ça ?
Bah, j'ai pas de vrai exemple, mais en fait, je pense que c'est juste les références que j'ai pu voir dans des films, etc., qui sont vraiment cette espèce de...
Oui, donc des gros clichés, quoi.
Bah, des clichés, mais en fait, qui, tu vois, visiblement, de toute manière, n'en sont pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, en France, on te disait la musique typique, bah, c'est de l'accordéon. Oui, bah, en fait, c'est un cliché, néanmoins, ça existe, en fait, tu vois.
Oui, mais bien sûr. Mais là, par exemple, typiquement, je sais pas si c'est un accordéon qu'il y a dans le morceau.
Ça sonne un peu, je suis d'accord qu'il y a une sorte de petit.
Je me serais pas dit ça pour le.
Non, mais ça, je pense qu'à mon avis, c'est plus le côté Grupo Frontera.
Ah,
je pense que c'est la patte Grupo Frontera sur le morceau, parce que, effectivement, pour avoir pas mal écouté Peso Pluma, cette sonorité-là, je suis pas sûr de l'avoir entendu beaucoup. Donc ça, je pense que c'est l'apport de Grupo Frontera. Mais oui, moi, ce succès, il m'intrigue parce que, bah, je parlais d'accordéon, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu comme si un rappeur ou un chanteur venait tout d'un coup à exploser vraiment tout sur son passage avec de la musique à base d'accordéon comme instrument principal. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à imaginer ça en France.
Ouais, refais de la guinguette, mais...
Exactement, et là, tout d'un coup, waouh, c'est vraiment superstar, tu vois. Et d'autant plus que là, en plus, a priori, il y a quand même tout un côté hip-hop, mais ça, je vais en parler. Mm-hmm. Néanmoins, en tout cas, quand je dis ça, c'est que quand même, si je le ramène ici aujourd'hui, c'est que ça a fini par m'avoir.
Et ah bah, bien sûr.
Tout à fait, musicalement, je me suis totalement laissé prendre au jeu. Je parlais du fait que c'était de la folk aux influences hip-hop et urbaines. En réalité, moi, je trouve que ça passe surtout par le visuel dans les clips, les tenues des artistes. Perso, j'entends rien de hip-hop.
Oui, mais...
quand j'écoute cette musique-là.
Bien sûr. Mais est-ce qu'on a écouté la musique trad en question, de base, pour voir s'il y a des choses qui changent, tu vois ? Que eux, ils estimeraient que c'est plus hip-hop, tu vois ce que
Écoute,
je veux dire ?
Écoute, j'ai un peu travaillé mon affaire. Ah. De ce que j'ai cru comprendre, en fait, ce qui ressort beaucoup en fait, de ça, c'est plus, justement, tout le packaging.
Oui.
En fait. Tu vois, c'est l'emballage.
Non, déjà, la pochette de l'album, quoi.
Les pochettes des albums, les clips... Parce que, en fait, à l'exception d'une guitare ou d'une trompette qui font parfois une apparition, on est sinon dans les codes d'une imagerie hyper hip-hop et ou reggaeton, tu vois, avec des chaînes, des cagoules, de la sape à la mode, des voitures, des filles. Enfin, tu vois, alors que le tout, c'est sur une musique vraiment de, ce que je vais redire, de mariachi, quoi. Et pour nous, Européens, je trouve que le contre-pied, quand tu regardes les clips, il est assez cocasse, en fait. C'est vraiment, c'est assez drôle. L'autre rapprochement que je pourrais faire avec le hip-hop, c'est peut-être au niveau des paroles. Parce qu'il y a de l'ego trip, ça parle de relations à l'argent, aux filles, aux réseaux sociaux. Ça, c'est pour l'aspect le plus consensuel de sa musique, car au début de sa carrière, Peso Pluma était considéré comme un chanteur en fait de narco-corrido. Donc, je vous parlais de corrido tout à l'heure. Voilà, là, on est encore dans une espèce d'autre branche, d'autre genre. Voilà, c'est un autre sous-genre du regional mexicain où là, ce sont à nouveau des balades, mais cette fois à la gloire des narcotrafiquants.
Ah, d'accord.
Et c'est tout en fait un genre assez populaire au Mexique, même si c'est pas forcément bien vu. Et en tout cas, Peso Pluma, quand on lui pose la question, il a en général pas grand chose à répondre et il botte un peu en touche.
Ok.
Sans m'y connaître, j'aurais un peu envie de comparer ça, tu vois, à des rappeurs qui parlent de leurs morceaux comme s'ils étaient des grossistes de drogue, tu vois, et qui vendaient des trucs au détail. J'ai l'impression que c'est un peu, bah, nous on a cette culture-là, eux c'est la leur, tu vois, c'est l'espèce de glorification des narcotrafiquants. Bref, moi comme je vous le disais, je me suis bien laissé happer par le délire et l'album Genesis est très souvent revenu en fait dans mes écoutes quand je savais pas quoi écouter en fait. Parce que c'est vrai que c'est assez estival comme musique, on va pas se mentir. En tout cas, pour nous, petits Européens, c'est vrai que je trouve que ça a vraiment une connotation assez solaire, quoi. Et puis voilà, ça a un côté hyper dépaysant dans ce qui se produit, tu vois, instantanément. Là. Enfin, quand t'écoutes ça, t'es transporté ailleurs.
C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Même, tu vois, genre de la musique latino. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui m'intrigue. Et je sais pas si t'as la réponse dans ton étude sur le cas, mais moi ce qui m'intrigue c'est pourquoi, genre là dans les derniers mois, la dernière année, ça
a explosé.
Mais genre à un moment donné, moi j'avais regardé les top vidéos YouTube parce que je pense notamment les latino-américains regardent beaucoup YouTube et sont pas trop sur les services de streaming. Et alors les stats des clips. Mais que ça soit Peso Pluma, Grupo Frontera et tout, vraiment, mais c'est très surprenant, quoi.
Ouais, ouais.
C'est que c'est tout en top monde parce que les gens, ils écoutent que ça. Et je me dis, pourquoi, quel a été le déclic, tu vois ? Genre, j'aimerais trop savoir...
J'ai pas totalement d'explication par rapport un peu à ce que j'ai lu. Il y a évidemment TikTok. Ça, c'est sûr que ça a aidé à faire passer, je pense, tu vois... les refrains, les côtés assez catchy comme ça sur des petits passages,
oui,
ça a grave aidé. Il y en a certains qui analysent que il y a quelqu'un comme Bad Bunny en fait qui a quand même défoncé des portes et que derrière il y a tout un tas de globalement de musique latino et hispanophone qui se sont engouffrés dedans.
Oui, et puis Bad Bunny il a un côté un peu
crossover.
Un peu à la Drake, je pense,
ouais,
d'essayer d'être dans la hype et dans les trucs qui marchent.
Sur tout ce qui prend, ouais.
Et donc, du coup, c'est sûr que quand t'as Bad Bunny qui fait un feat avec Grupo Frontera, en fait, tous les gens qui écoutent Bad Bunny en dehors des pays latino-américains et d'Espagne
se mettent à écouter.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un effet d'influence non négociable, quoi.
C'est évident. Mais j'ai pas encore plus creusé. Je vais pas mentir aussi, je me suis pas coltiné des pages et des pages d'articles en espagnol ou en anglais qui analysaient de manière hyper précise le phénomène Peso Pluma. Surtout que je suis d'accord avec toi, c'est que ça a quand même rien à voir avec combien même la vague un petit peu, tu vois, latino, reggaeton ou ce que tu veux. S'il y a vraiment une sorte de démarcation.
Ouais.
Mais je trouve que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire que je pense qu'on a eu un peu le même réflexe à la première écoute, c'est de se dire, oh, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, tu vois, après quelques écoutes, ah, ah, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vois, c'est, il y a quand même, on s'est laissé charmer, donc pas étonnant que peut-être même globalement, en étant peut-être hispanophone, quand tu comprends un peu les paroles, que tu puisses te,
oui, bien sûr.
Tu vois, te laisser encore plus facilement prendre par la vague.
C'est très intéressant en tout cas.
Donc
moi,
si vous avez envie de creuser un peu Peso Pluma, je vous conseille évidemment son dernier album, Genesis. Je vous recommande particulièrement le morceau d'intro, qui je trouve fonctionne hyper bien, le morceau Lady Gaga ou le morceau Lagunas. L'autre recommandation, c'est son album précédent, moi que j'ai écouté, qui franchement, c'est pareil, j'ai retenu pas mal de morceaux. Il s'appelle Efectos Secundarios et je vous recommande notamment le morceau Mil Historias. Et puis l'autre morceau que j'ai envie de vous conseiller, c'est le morceau La Bébé Remix avec Young Lucas. Là, Peso Pluma, tu vois, il commence à partir sur d'autres choses. On est plus sur de la cumbia, que je trouve très efficace. Et bah voilà, quand on voit qu'il commence à partir à élargir, on va dire, son spectre musical, je pense que ça appelle pas mal de choses.
Après, ouais, c'est pareil, ça, c'est les remix. Donc à mon avis, le morceau La Bébé, c'était Young Lucas. Et après, Peso Pluma, il a posé dessus. Donc
certainement.
Je pense que c'est
et en plus, ce morceau a été lui-même remixé ensuite par David Guetta.
Aïe, aïe.
Et je ne vous recommande pas celui-là.
Ah, oui.
Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Mais en vrai, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire de dire que quand même David Guetta va chercher ce type de morceau. Quoi.
Mais après, je ne sais pas sur quel label il est signé Peso Pluma, mais...
J'ai pas,
je pense qu'il y a des trucs derrière qui se jouent dans les maisons de disques et les machins, les trucs.
Probablement.
Pour faire grossir les artistes, tu vois. C'est comme en France, un Jul qui va fitter avec je sais pas quel rappeur italien. Parce qu'en fait, ils savent que ça fait croisement d'auditeurs.
Ouais, c'est possiblement. Mais ça m'a quand même vraiment surpris de se dire que tiens, un David Guetta pouvait se retrouver dans cette affaire-là.
C'est sûr. C'est sûr.
Voilà, oui. C'est
passionnant
tout pour...
du coup.
Bah ouais, c'est d'autant plus passionnant. Et je pense que, moi, à mon avis, Peso Pluma, il y a moyen, effectivement. Je suis très curieux de voir là où il va aller. Voir notamment s'il va quand même un peu. Est-ce qu'il va lâcher un peu sa musique pour partir vraiment sur d'autres genres et devenir plus global? Est-ce qu'il va rester? Parce que vraiment, si ces derniers trucs, j'en parlais un peu, mais allez voir les pochettes de ses albums. Vraiment.
Mais l'album
parce que
Genesis,
c'est
incroyable.
Hein. Bah, l'album Genesis, mais même celui d'avant, moi, celui-là, Efectos Secundarios, c'est vraiment une cover de mixtape de rap. Tu sais, au dessin, avec. Ça a tous les codes vraiment du bon ou du moins bon goût d'ailleurs du rap et tout ça. Et moi, je pensais vraiment quand j'allais lancer ce deuxième album en disant « Ah, voilà, Genesis, c'est l'album où il retourne aux racines, il va musique mexicaine. » Et je m'attendais à ce qu'avant, ça sonne vraiment hip-hop.
Pas du tout,
vraiment, mais que nenni. Donc, c'est d'autant plus... c'est assez rigolo.
Ouais.
Et donc, allez voir aussi un peu des clips. Vraiment, j'avoue que d'un point de vue extérieur comme ça, ça paraît presque, ça fait vraiment, c'est presque rigolo en fait, tellement il y a un décalage.
Ah ouais, de notre point de vue, c'est sûr.
D'Européen, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour Peso Pluma. On peut passer au son d'après.
Et pour le son d'après, on change de continent, mais on reste dans la même langue, puisque l'artiste que je vais vous présenter est une des pionnières du mouvement de la trap espagnole. Au début des années 2010, elle traînait avec les Poor Gang, aujourd'hui connus sous le nom de Los Santos, un trio de rappeurs dans lequel on compte notamment Young Beef, qui a participé à mettre ce genre musical sur la carte. Et l'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle La Zoe, Zoe Jano Canto de son vrai nom. C'est une rappeuse franco-espagnole. Elle a vécu à Paris les premières années de sa vie avant de déménager à Grenade, où elle a donc rencontré les membres du Poor Gang avec qui elle sort son premier titre en 2013. Il s'appelle Racheta et est publié sur la chaîne YouTube du Crew. Il faudra cependant attendre quelques années avant qu'elle ne sorte sa première mixtape, Ama de Casa, en 2018. Entre-temps, elle développe son personnage à travers pas mal de singles et de duos avec d'autres artistes plutôt underground de son entourage, notamment Bea Pelea ou Miss Nina, dont j'ai déjà parlé ici.
Tout à fait.
Elle est signée sur le label de Young Beef, la Bendition Records, depuis ses débuts et elle est vraiment reconnue comme l'une des pionnières de la trap espagnole. Je trouve sa musique assez underground et pas nécessairement très simple d'accès.
Ah oui, ok.
Comme toute trap qui se respecte, ce que propose la Zoé, dans les choix de production notamment, c'est souvent assez sombre. Elle a sorti deux mixtapes, la première dont je vous ai parlé en 2018, puis Elite en 2020. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est son premier album sorti fin mai 2023 et toutes les directions qu'elle a décidé de prendre dans ce disque. Il s'appelle Reina del Sur, la reine du Sud. Et avant de vous en parler plus en détail, je vous propose qu'on écoute un extrait du single La Nueve.
A mí me da igual si no me quiere, estoy anestesia y no me duele, pa' defenderme tengo la nueve, a mí me da igual si no me quiere, a mí me da igual si no me quiere, estoy anestesia y no me duele, pa' defenderme tengo la nueve, a mí me da igual si no me quiere, tengo la nueve. No me compare, no soy como tú. No. Haciendo dinero, la reina del sur. Money. Mi puta calla, no dicen ni mu. Estamos condenas como Jesús. Dios. Tu shorty detrás porque hago guastarra. Esa bicha está rota, la pongo a bregar. Puta. Flipeando bricks, me creo amigos. No me fío de nada, papi, no tengo amigos. No. Estás detrás de mí, yo no te sigo. Y es que yo soy real, no hay testigo. Negocio ilegal, puta leal. Soy tu desayuno como el cereal. A mí me da igual si no me quiere. Estoy anestesia y no me duele. Pa' defenderme tengo la nueve. A mí me da igual si no me quiere. A mí me da igual si no me quiere. Estoy anestesia y no me duele. Pa' defenderme tengo la nueve. A mí me da igual si no me quiere. Conmigo te va a dar jet lag. Tengo muchas putas, te hago el sex pack. Por donde has venido, por ahí te vas. Yo soy explosiva, papi, como el gas. Más, papi, dame más. Me gusta cuando te vienes y cuando me das. Ras, por delante o por detrás. Dime lo que quieres, papi, tú dirás.
La Nueve de la Zoé. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ?
Écoute, j'ai trouvé ça très efficace. Oui. J'ai pas 10 000 choses à en dire, mais j'ai trouvé que c'était...
Ça t'a plu ?
Ouais, ça m'a plu. En fait, je me voyais très bien écouter ce son en club.
Oui,
tu vois,
je suis d'accord.
Un vrai son de club, comme il pourrait en passer plein, tu vois, mais dans une sorte de succession. Mais là-dessus, j'ai bien aimé. Par contre, du coup, j'ai envie de te poser deux questions. On est d'accord que là, c'est plus du reggaeton. Hein.
Oui,
on n'est pas sur la trappe, hein, c'est ça. Et tu parlais de reine de la... En tout cas, de personne qui a a priori fait date dans la trappe en Espagne.
Oui.
Ça me paraît très tard par rapport, par exemple, à l'arrivée de la trappe en France. Est-ce que tu sais...
Oui, en fait, la trappe espagnole, ça commence fin
2010, quoi.
Ouais, plutôt début 2010, genre 2013, je crois, il me semble, les Poor Gang et compagnie, c'était 2013. La Zoé, elle faisait partie de cette team-là.
D'accord, ok.
Et après, donc, ça s'est vraiment développé.
Ok, donc ça paraît plus... En termes de date, ça me paraît un tout petit peu plus crédible par rapport au décalage avec la France, parce que pareil, là, en France, ça débarque vraiment début 2010, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est pour ça, et vu que je voyais ses projets, elle, effectivement, c'était plutôt 2010.
Oui, elle a un peu tardé plutôt à voilà. sortir des trucs, mais en fait,
mais
c'était vraiment une des premières meufs à être dans le milieu de la trappe. J'en parlerai peut-être un peu plus à la fin de ma chronique, mais en gros, il y a toute une identité, j'ai l'impression, qui se crée dans le mouvement de la trappe espagnole.
Okay.
Mais en tout cas, alors en effet, j'ai beaucoup parlé de trappe en introduction pour parler de ce morceau. Et en fait, peut-être vous êtes fait la réflexion, comme Clément, mais ce n'est pas de la trappe, c'est du reggaeton. Et en tout cas, la rythmique l'est, c'est sûr. Et c'est justement en fait l'axe que j'avais envie d'aborder en vous parlant de la Zoé et de ce nouveau disque La Reina del Sur. En fait, ça fait un moment que j'ai un œil sur elle, sans vraiment avoir de déclic qui me pousse à venir en parler dans le son d'après. Et c'est l'écoute de ce disque qui m'a fait changer d'avis, parce qu'en fait, elle reste dans un univers assez underground. Vous avez entendu, les sonorités sont assez industrielles. Dans ce titre, on vient vraiment... Malgré la rythmique reggaeton, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas vers le mainstream, quoi. C'est des sons assez bruts, assez indus, je trouve. Non, t'es pas d'accord.
En fait, je me posais la question sur le mot underground. C'est pas le mot que j'emploierais.
Ah bah pour moi si.
Mais ok, d'accord. Vas-y.
Bah en tout cas, je trouve c'est.
Ça me paraît efficace, tu vois ce que je veux dire. Je trouve. Après, ça
oui,
sonne
mais
pas.
C'est efficace, mais ça sonne pas Bad Bunny, tu vois. Ça sonne. En fait, ça sonne sombre.
C'est plus sombre.
Ça sonne sombre et en fait,
c'est pas pour autant
pas
que.
C'est pas mainstream du tout, je trouve.
D'accord. Ouais, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, il y a plein de morceaux de manière générale de rap qui peuvent être avec. Tu vois, qui peuvent avoir des sonorités sombres. C'est pas pour autant que c'est pas mainstream et que c'est pas.
Bah, en tout cas. Mais ouais, pas, moi, mais... je trouve que okay, y a non, ça mais... qui se... En fait, ça se rapproche plus du néo-péréo, je trouve, dans les sonorités.
D'accord.
Qui fait que du coup, il y a un truc où. j'ai pas l'impression qu'elle cherche. En fait, si elle cherchait à aller dans le mainstream, elle ferait des trucs plus.
Lumineux.
Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. En tout cas. Qu'est-ce que je disais du coup ? Je ne sais plus. Mais bon, bref. Donc, j'estime que moi, elle va pas vers le mainstream avec ses sonorités là que j'associe personnellement plus à des sons qui sont moins faciles d'accès. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans La Nueve. C'est ce côté très dansant amené par le reggaeton et à la fois cette touche sonore qui me rappelle un peu des artistes que. Donc, j'imagine le genre, c'est le truc reggaeton futuro dont j'avais déjà parlé à l'épisode, pardon, je vais y arriver, où on recevait Anako, des Nick Leon, des Dinamarca, certaines prods de King Dudu ou encore des meufs comme Rosa Pistola ou la Gunichanga. Et oui, j'ai dit plein de noms, je mettrai dans les notes du podcast, je sais que je vous parle peut-être une autre langue, mais en tout cas, c'est plein d'artistes qui sont quand même très ancrés dans un underground où il y a des sonorités reggaeton, mais... Le tout est quand même assez, je trouve, je sais pas, je trouve que c'est pas populaire, quoi, c'est pas mainstream. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais bon. Et en tout cas, sur ce disque, elle pose sur des prods de trap assez classiques, comme dans Beach Feka ou House Dinner, qui est en featuring avec Maria Lynn. Mais elle va aussi voir ailleurs, en chantant en français, par exemple, sur le morceau Bébé, produit par King Dudu, le lyonnais le plus aimé du néo-péréo et du reggaeton. Puisqu'il a produit pour plein d'artistes, notamment Balvin, on en a déjà parlé, il me semble. Et il y a aussi un excellent dembo avec le producteur et chanteur Léo R.D. à la prod. Et bref, il y a de quoi faire sur cet album de la Zoé, et ça me fait grand plaisir de pouvoir la faire découvrir si jamais elle n'était pas encore dans vos radars. Et je parlais de l'identité tout à l'heure, de la trap, etc. En fait, là... Il y a le truc de la Reina del Sur, tu vois, genre, elle vient de Grenade, elle a fait ses armes là-bas, les gars de la trappe espagnole, ils sont tous très, bon, je pense comme un peu tous les artistes, je pense très fiers de là d'où ils viennent, tu vois.
Un peu chauvin, ouais.
Un peu chauvin, exactement. Et en fait, elle fait partie des quelques femmes qui sont dans ce mouvement-là. Elle a ouvert la voie à d'autres meufs qui sont passées derrière elle. Et je trouve que ça peut rejoindre le côté néo-péréo dont je parlais quand j'avais parlé de Miss Nina. Dans le côté, elle revendique un truc très ratchetta. Donc ratchetta, c'est une version hispanisée de ratchet. Ratchet, c'est un peu une meuf cheap, tu vois, genre aux USA, je pense, notamment. Et donc, du coup, c'est des meufs avec des ongles longs, tu sais, genre, c'est tout le... est-ce qu'en France, on a un truc qui pourrait se rapprocher de ça ? Peut-être cagole ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le premier mot qui me vient.
Je pense que c'est le truc le plus proche. Enfin, j'ai pas d'autres exemples. Mais donc, voilà, il y a un peu...
Qu'ils ont un pareil, qu'ils ont détourné, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, elle le détourne, et en fait, c'est intéressant que...
Se le réapproprie, quoi.
Qu'elle se le réapproprie dans ce milieu qui est genre ultra masculin, où elle traîne avec des Young Beef. Mais en même temps, Young Beef, il fait une espèce de trap quand même assez pareil. Pas hyper facile à écouter, il y a quand même plein de samples et de trucs un peu où moi je trouve ça intéressant, mais c'est pas des trucs, enfin, en même temps je crois que j'ai un problème avec la trap, de manière générale j'ai l'impression que c'est pas simple à écouter.
En fait tu vois c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait je pense que tu associes ce que tu qualifies comme underground ou pas simple à écouter, c'est juste de la musique un peu sombre, parce qu'en fait le nombre de trappeurs...
Non c'est pas que ça.
Ouais, le nom, bah...
Parce que je comprends, tu vois, genre la drill, par exemple, c'est pas un truc qui me parle, c'est un truc qui est sombre et qui est très populaire, mais juste là, je trouve, dans les sonorités, il y a des trucs électroniques qui font que ça reste underground. Mais c'est peut-être pas clair ce que je dis, et peut-être que j'ai tort.
Après,
hein,
c'est peut-être... C'est ton avis. Moi, là-dessus, je le rejoins pas dans le sens où, comme je te dis, le premier truc qui m'est venu, c'est qu'en fait, j'imaginais que c'était un son qui pourrait passer dans un... Mais quand je te parle d'un club, c'est pas un petit club, hein. Tu vois, c'est une espèce...
c'est
boîte.
C'est pas un petit club, ouais,
tu vois, c'est côté boîte, tu vois, avec un son boom, quoi. Enfin, un son vraiment pour les boîtes.
Oui, mais c'est pas parce que ça peut passer en club. Enfin, il y a plein de sons qui passent en club qui sont pas mainstream.
Dans le type de soirée, voilà, dans un type de soirée qui se veut être pour personne qui écoute de la, tu vois, de la trappe, enfin tu vois.
Ouais.
Et donc moi bon. C'est en ça que je trouve que c'est pas, je qualifierais pas underground. Pour moi c'est effectivement quand c'est plus dur à écouter et c'est quelque chose qui est pas évident à écouter à la première écoute. Je trouve que ça, c'est hyper évident à écouter à la première écoute.
Je choisis un morceau qui est facile à écouter à la première écoute, on est dans le son d'après. Je fais exprès aussi
de... Oui, que les gens aillent s'intéresser. Donc c'est en ça que je rejoins pas le côté underground. Mmh, mais voilà, okay. Bon, on va pas en faire...
Oui, on va pas en faire...
épiloguer des heures là-dessus.
On va pas en passer 3 heures. En attendant, pour prolonger écoute de mon côté, bien sûr, je vous prescris une écoute de La Reina del Sur. Ensuite, on peut enchaîner sur l'excellent titre Revolea, où elle est en featuring avec Miss Nina, Taishu et Ebony. Et pour finir, j'ouvre rapidement le spectre et je vous conseille d'aller écouter l'album Coupé de Soto Asa, un autre trappeur espagnol. Album sur lequel on retrouve un featuring avec Lazoui et un autre avec Bad Gal, que j'adore de tout mon cœur. Mention spéciale quand même au titre d'ouverture qui s'appelle Most Wanted, dont la boucle de mélodie m'obsède totalement et que j'aimerais passer plus régulièrement au club, mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour la Zoé, et on passe au son d'après.
Écoutez, c'était pas prémédité, mais un peu à la manière de l'épisode 69, on va clôturer en revenant à quelque chose d'un peu plus, un peu plus calme. Je vais vous parler d'une chanteuse, compositrice et artiste visuelle anglaise du nom de Anony. Anony, c'est une femme trans de 51 ans, précédemment connue sous le nom de Anthony, du groupe Anthony and the Johnsons. Moi, c'est sous cette identité que je la découvre au début des années 2010, ma période Les Un Rock, mais j'avoue qu'excepté la voix qui est tout de suite très reconnaissable, vous allez voir, j'avais jamais vraiment plus creusé que ça. Et pourtant, c'est une artiste importante, avec bientôt 20 ans de carrière au compteur, des prestigieuses collaborations avec Björk, Lou Reed ou encore Marianne Faithfull, et désormais 6 albums. Son nouvel opus, My Back Was a Bridge for You to Cross, est sorti au début de l'été, 7 ans après son dernier album solo et 13 ans depuis le dernier album avec les Johnsons. Il a été réalisé en collaboration aussi avec Jimmy Hogarth, à qui l'on doit notamment des albums de Amy Winehouse, Tina Turner ou Duffy, dont tu parlais justement.
Tout se rejoint.
Et cet album m'a mis une bonne claque. J'avoue que ça faisait un petit moment qu'un projet en fait m'avait pas autant impressionné à la première écoute. Tout de suite, je me suis dit que ça allait être un album important pour moi de cette année. Il fallait évidemment du coup que je la ramène dans le son d'après. Je vous propose qu'on écoute un extrait du morceau qui ouvre cet album. Ça s'appelle It Must Change, que vous voyez un petit peu la beauté de tout ça. C'était Anony and the Johnsons avec le morceau It Must Change. Je me retourne vers ma binôme préférée. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah écoute, c'est charmé. Juste, moi, dans ma tête, Anony faisait de la musique beaucoup plus triste. Alors même si elle répète à longueur du morceau que It's So Sad, je trouve que musicalement, il y a quand même un truc... assez lumineux, assez
plus
jazz,
soul, en fait.
Soul, etc. Et donc du coup...
C'est sûr qu'avant on était plus sur une sorte d'alternatif un peu déprimos, ouais.
Oui, j'avais le sentiment, ce qui me restait en tout cas de Anony, c'était ça. Donc ça m'intéresse d'aller écouter l'album parce que ça a l'air un peu plus lumineux, quoi.
Bah ouais, moi je... Notamment cette voix, en fait. Moi je me souviens très bien que tu vois... Je pense qu'elle peut être un peu déconcertante la première fois que tu l'entends. Moi j'ai les souvenirs que quand je la découvre en 2010... je me dis, ok, c'est de la musique pour chialer. Exactement. Ouais. Et puis il y a quelque chose, je trouve, même d'assez emphatique. Emphatique dans... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je trouve, d'assez grandiloquent dans l'interprétation. Tu sais, je trouve que même quand on est sur quelque chose d'assez feutré, bon.
Ah, il y a de la présence.
Ouais, il y a de la présence et ça peut être un peu même, je trouve, déstabilisant, un peu... Ouais, ça déstabilisant même un peu... J'ai pas le terme là qui me vient, mais ça peut prendre. Et moi, je sais que c'est ça qui m'a arrêté. C'était trop pour moi, tu sais, quand je la découvre. Il faut vraiment avoir envie de plonger dedans. Je pense initialement quand je la découvre en 2010. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a vraiment plu avec cet album-là, c'est qu'effectivement, là, déjà, les sonorités beaucoup plus soul, beaucoup plus chaleureuses comme ça, ça m'a tout de suite capté. Parce que, quand même, il se dégage une émotion dingue avec cette voix. Tu vois, je trouve, moi, c'est assez fou. D'ailleurs, j'ai lu un article de Télérama qui l'a reproché de Nina Simone. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'ADN de sa voix qui est proche.
Okay.
Je comprends la filiation, en tout cas, qui peut être faite. Tu vois, dans la puissance de cette voix comme ça. Et ce que j'aime avec ce morceau, c'est que déjà, c'est une intro tout en douceur. Il y a quelque chose dans cette soul que je trouve extrêmement élégant et aussi d'hyper réconfortant. Tu vois, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'on prend soin de moi, qu'on me met confortable. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Vous en voulez un petit coussin ? Pas de problème, le refrain, il arrive tout de suite. Vous voulez vous étirer un peu les jambes ? Attendez, la voix d'Anonyme va vous monter dans les aigus. Là, vous verrez, ça fait le plus grand bien.
Okay.
Tu vois, c'est vraiment, on me met dans mes petits chaussons et ça me détend totalement, ça me décontracte. Voilà, ça décontracte toutes les parties de mon corps. Moi, ça m'a charmé et tu vois, même pour un premier morceau, ça m'a préparé de la plus belle des manières au reste de l'album. Et cet album, il est composé du coup, comme je disais, de sonorités soul, mais aussi un peu de rock, un peu de pop, et tout cela est vraiment très joliment fait. Et si clairement la voix d'Anony ressort au milieu de ces magnifiques arrangements, il y a quand même une très belle construction de projet faite de variations, je trouve, homogènes. C'est comme ça que j'ai envie de qualifier ça, tu vois, de variations homogènes. Elle cite Marvin Gaye et What's Going On comme inspiration principale de ce disque. Je trouve qu'on le ressent particulièrement quand tu avec le morceau que je vous ai présenté. La référence à Marvin Gaye, elle n'est pas anodine non plus, puisque Anony, elle est militante. Ce militantisme, on le retrouve dans ses textes où l'album parle en partie de lutte contre les discriminations LGBTQI+, ou de protection de l'environnement. Le militantisme aussi sur la pochette de l'album, puisqu'elle est illustrée par une photo de Marsha P. Johnson, qui est une drag queen et une activiste pionnière du mouvement LGBT à New York dans les années 60, et que Anony a connue dans sa jeunesse. Elle a d'ailleurs inspiré le nom du groupe, The Johnsons.
Incroyable,
quand même.
Je savais pas ça.
Voilà, c'est pas anodin. Marsha P. Johnson, en plus, elle est morte au début des années 90 dans des conditions jamais élucidées. C'est a priori pas anodin, et je pense que Anony, voilà, lui rend un vibrant hommage avec cette pochette d'album.
Ouais, moi je l'ai vue dans le métro, cette pochette d'album, et alors j'avais pas capté que c'était un album de Anony and the Johnsons à la base, mais du coup j'étais en mode, il y a une énorme photo de Marsha P. Johnson dans le métro et ça me montre que le monde change, putain, je suis pas sûre qu'il y a quelques années ça aurait été le cas, donc j'avoue que j'étais agréablement surprise.
Bah moi, je vais être honnête, je ne connaissais pas du coup cette personne avant d'avoir l'explication de la pochette, mais je trouve que c'est, en tout cas effectivement, que c'est pas anodin et que même... franchement, je connaissais du coup à la base Anthony and the Johnson de très loin. Là, du coup, je découvre un petit peu qu'est-ce que cette personne est devenue depuis. Et je trouve que je suis allé regarder les clips et tout, et j'ai trouvé ça hyper positif de voir l'élan qu'il pouvait y avoir autour d'une artiste comme elle. Et ouais, c'est pareil, bah, tu vois, je rejoins l'optimisme, tu vois, qu'amène en tout cas aussi cette pochette d'album. Donc, j'espère vous avoir convaincu, je ne peux que vous recommander d'écouter vivement cet album qui vibre un peu plus à chaque écoute en moi. L'album, du coup, je le répète son nom, il s'appelle My Back Was a Bridge for You to Cross. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, alors, je vais pas vous mentir, j'ai écouté un petit peu, du coup, j'ai rattrapé mon retard sur les autres albums. Après, c'est globalement, comme on le disait un peu avant, c'est un peu plus...
Plombé,
exactement. J'ai pas eu envie non plus de me déprimer totalement avec la rentrée qui arrivait, mais j'ai écouté un peu tout, donc je vous lance ça comme ça. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se valent, donc... Il y a, dans les écoles en tout cas que j'ai pu voir un peu, il y a ces deuxième et troisième albums qui ont l'air d'être des morceaux assez importants de sa discographie. Moi, je vais vous recommander The Crying Light, qui est le troisième. Vous allez voir, la pochette, elle est aussi... Bon, ça, là, elle est bien plombante, la pochette. et je vais vous recommander, allez, pour aller... Parce que du coup, Anony a ensuite, à un moment, s'est séparé du coup de The Johnsons pour faire un album solo, qui est plus électronique, s'appelle Hopelessness, et c'est produit quand même par OneOtrix.Never et Hudson Mohawk. Je trouve que ça mérite d'aller écouter, voilà, si vous voulez l'écouter encore dans un autre registre un peu différent. Et je trouve qu'il y avait vraiment des morceaux très intéressants.
J'ai souvenir d'avoir beaucoup écouté cet album.
Ah ouais. Et bah, tu vois, moi, je le connaissais pas. Et intéressant.
Puis-je rajouter une quatrième reco?
Évidemment, évidemment.
On parlait de Marsha P. Johnson. Je sais qu'il y a un documentaire qui est dispo sur Netflix qui s'appelle Marsha P. Johnson, histoire d'une légende. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur son histoire, qui est cette personne et quel est son rapport notamment avec le lancement en fait des mouvements LGBTQI+, puisque en gros elle fait partie des personnes qui étaient aux émeutes de Stonewall en 69, qui était un bar qui s'est fait violemment réprimé par la police, et suite aux émeutes de Stonewall débute un peu la lutte des droits LGBTQI+.
Okay.
Donc voilà, cette personne est vraiment genre très importante dans
l'histoire. Elle a l'air d'avoir une vie assez passionnante. Moi, dans les interviews que j'ai pu lire un petit peu de Anony, du coup elle en disait quelques mots, et c'est vrai que elle a l'air d'avoir une vie vraiment riche en rebondissements, dans sorte d'effervescence de cette époque-là. Tu parles d'une roco, c'est pas forcément une roco parce qu'en vrai je ne l'ai pas vue, donc c'est difficile de vous en parler, mais je tenais quand même à mentionner que Anony a co-réalisé avec Charles Atlas un documentaire qui s'appelle Turning et qui tourne justement autour de la notion de transidentité.
Ok.
Donc si ça peut aussi vous intéresser, si je trouve ça aussi, ça fait partie de la longue et riche carrière de Anony, donc ça peut être quelque chose d'assez chouette à regarder, je pense.
Je note.
Voilà. Et écoute, on arrive au bout de cet épisode.
Tout à fait.
Top. Et je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'on a encore des belles choses là.
Mais bien sûr.
On espère que vous a plu. Que ça vous a plu. Je saute les mots. Là, il est fatigué. Il fait chaud et tout chez nous. Mais oui, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver du coup les 4 morceaux qu'on vous a présentés dans la playlist, les notes du podcast, tout ça. Je vous refais pas le topo.
Vous savez maintenant.
Mais nous, on se dit, Louise, à dans 2 semaines.